Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles en Exode 20. Nous allons lire la loi de Dieu au verset 2 à 17. Je commencerai même au verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. » Voici donc la loi de Dieu telle qu'elle est écrite dans ce chapitre du livre de l'Exode. Permettez-moi de lire maintenant un commentaire qu'en a fait le réformateur Jean Calvin. Il écrit ceci quant à la loi. « Par son instruction simple, la loi mène à Christ 2 types de personnes. Les premières sont pleines de confiance en leur propre force ou leur propre justice et sont incapables de recevoir la grâce de Christ tant qu'elles n'auront pas fait le vide en elles. La loi, en leur montrant leur misère, les incite à l'humilité et, par ce moyen, les prépare à désirer ce dont elles pensaient ne pas manquer. Les secondes sont celles qui ont besoin d'être rappelées à l'ordre, afin de ne pas se laisser conduire par les désirs de leur chair. Là où l'Esprit de Dieu n'est pas encore le maître, les désirs sont parfois si énormes et exorbitants que l'âme est en grand danger d'être comme ensevelie dans un mépris et un dédain de Dieu. Il en serait ainsi, en fait, si Dieu n'intervenait pas par le moyen de la bride de la loi. Le troisième et principal usage de la loi correspond au but pour lequel elle a été donnée. Il est destiné aux croyants dans le cœur desquels l'Esprit de Dieu vit et règne avec puissance. Même si ceux-ci ont la loi écrite par le doigt de Dieu dans leur cœur, elle est, pour eux, un très bon instrument qui, jour après jour, leur fait mieux et de façon plus claire apprendre quelle est la volonté de Dieu. Cette connaissance les fait grandir dans le souci de l'obéissance. Le croyant est comme un serviteur qui a décidé en son cœur de bien servir son maître et de lui plaire, et qui a besoin de connaître de façon précise ses pratiques et ses demandes afin de s'y adapter. Personne parmi nous ne doit s'exempter de cette obligation, car nul n'est parvenu à une sagesse telle qu'il n'ait plus besoin de progresser par l'écoute quotidienne de la loi. Après ces quelques mots, chers frères et sœurs, qui nous expliquent l'utilité de la loi, soit pour nous conduire à désespérer de nous-mêmes et à nous repentir et à placer notre foi, notre confiance en Jésus-Christ, ou alors cette loi qui est utile aussi pour le chrétien, pour savoir comment il convient, avec l'aide de Dieu, bien entendu, de se conduire ici-bas, après ces quelques paroles donc du réformateur et surtout ce texte que nous avons lu dans la parole de Dieu. J'invite un de nos anciens, M. Christian Benoît, à prier pour nous.
Nous inclinons la prière. Oh oui, Dieu notre Père, ainsi que ces quelques versets nous l'ont puissamment rappelé, nous sommes pécheurs. Cette semaine encore, aujourd'hui encore, nous avons péché, en acte et en parole, Père Céleste, par action ou par omission, Père Céleste. Nous avons fait le mal que nous ne devons pas faire bien souvent et nous n'avons pas fait le bien que nous devrions faire, Père Céleste. Et nous te demandons pardon, vraiment. Nous sommes misérables, nous nous en rendons compte. Nous sommes indignes de paraître devant toi et nous nous repentons avec humiliation. Et nous savons, Père Céleste, que par grâce, tu as prévu en Jésus-Christ un sauveur efficace. Grâce à lui qui a porté nos fautes sur la croix, nous pouvons avoir accès à toi ce matin. Nous pouvons nous relever de cette humiliation, Père Céleste. Nous sachons pardonner en Jésus-Christ. Davantage même, maintenant la justice de Jésus-Christ est mise sur notre compte. Nous sommes non seulement pardonnés, mais nous voilà justifiés. Comme nous l'avons entendu, la parole, ces 10 commandements sont maintenant gravés dans notre cœur. Et ce que nous n'aimions pas faire, eh bien, cette partie de notre cœur maintenant aime le faire. Et c'est ce vers quoi nous tendons, à appliquer tes commandements, Père Céleste. Et nous te demandons vraiment de nous conduire et de nous bénir, particulièrement dans les temps où nous vivons, afin que nous puissions vraiment appliquer cette loi, la mettre en pratique, rayonner autour de nous, Père Céleste. Oh oui, bénis-nous, en tant qu'individu, en tant qu'Église, en tant que témoin dans cette ville de Lausanne, Père Céleste, et des environs. Nous te demandons de bénir ce culte aussi, ta parole va être prêchée, et nous te demandons vraiment alors d'ouvrir nos cœurs à ton enseignement, de permettre que nous grandissions, que nous comprenions mieux ton conseil, afin de chaque jour mieux diriger nos vies. Bénis ton serviteur qui nous apportera ta parole, bénis nous qui allons l'écouter, et que tout soit fait à ta gloire. Dans le bon nom de Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Je vous invite à lire maintenant dans la parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, les versets 9 à 20. Nous lirons deux textes ce matin, le premier donc dans les Romains, et le second dans l'évangile de Jean. Ce sont les textes de la prédication, tout particulièrement le dernier verset que nous lirons dans l'évangile de Jean. Romains, chapitre 3, verset 9. Quoi donc ? Sommes-nous supérieurs ? Absolument pas. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperies avec leur langue, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voici donc ce premier texte dans l'épître de Paul aux Romains, et je vous invite maintenant donc à ouvrir vos Bibles au chapitre 6 de l'évangile de Jean, et nous lirons les versets 59 à 65. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaüm. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : Cela vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait : C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Et je répète ce verset 65. Et il disait : C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Voici donc les deux textes qui serviront d'appui à la prédication qui va suivre dans quelques instants. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, il nous a semblé juste ce matin de commencer une courte série de prédications qui va nous permettre de poser ou de reposer quelques bases doctrinales importantes que nous confessons en tant qu'Église réformée baptiste et en tant qu'Église réformée baptiste de Lausanne. Quelques doctrines importantes à propos du salut. Vous savez qu'en tant qu'Église qui porte le nom de réformée, eh bien, nous nous attachons non seulement aux symboles et aux confessions de foi historiques des premiers siècles de l'Église, le symbole des apôtres, qui est lu régulièrement ici, celui de Nicée, d'Athanase, les formulations de Chalcédoine, vous pouvez les trouver sur notre site si vous ne les connaissez pas. Nous nous attachons également aux confessions de foi et catéchismes qui ont vu le jour à partir de la Réforme, confession de La Rochelle, catéchisme de Heidelberg, la confession helvétique postérieure, je lirai trois articles tout à l'heure avant la scène, la confession de Westminster et, bien sûr, plus particulièrement, la confession de foi baptiste de Londres de 1689. Et si nous nous attachons à ces confessions historiques, eh bien, c'est que, même si nous ne les considérons pas comme étant inspirées de Dieu au même titre que sa parole, bien entendu, il nous paraît toutefois évident qu'elles résument en articles de foi clairs, simples et systématiques les grandes doctrines bibliques auxquelles doivent s'attacher les chrétiens, que ce soit en termes de vie ou en termes de foi. Et si nous attachons à l'Écriture sainte, tout d'abord, et ensuite, comme je viens de le dire, à ces confessions qui nous aident à comprendre la parole, nous enseignons donc à propos du salut les quelques vérités essentielles suivantes, vérités que nous allons commencer à considérer dès aujourd'hui et sur quelques semaines. Ces vérités sont les suivantes par rapport au salut. Il s'agit tout d'abord de la dépravation totale de l'homme. Ensuite, de l'élection inconditionnelle, puis de l'expiation limitée, de la grâce irrésistible également, et enfin de la persévérance finale des saints. Alors que peut-être que pour quelques-uns d'entre vous, ces termes ou ces expressions vous paraissent bien difficiles à comprendre, ou peut-être vous avez les poils qui se hérissent sur les bras en les entendant, alors que vos poils se reposent, et ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, l'objectif des prochaines prédications, c'est de vous aider à comprendre bibliquement ce que signifient ces grandes expressions, grandes doctrines biblique. Il faut savoir que parmi les plus grands noms de l'histoire de l'Église, nombreux sont ceux qui se sont associés à ces doctrines, avant même qu'elles soient nommées de la façon que je viens de donner, c'est-à-dire élection inconditionnelle, corruption totale de l'homme. Augustin, Jean Calvin, John Knox, le réformateur écossais, mais aussi John Bunyan, qui a écrit Le Voyage du Pèlerin, John Newton, Matthew Henry, le grand commentateur théologien anglais. On pourrait encore parler de George Whitefield, William Carey, le père des missions, Charles Spurgeon, pour ceux qui lisent ses ouvrages, Martin Lloyd-Jones, mais aussi, si nous prenons des théologiens français réformés, on pourrait parler de Auguste Le Serre, Pierre Marcel, Pierre Courtial, et tant d'autres encore, eh bien, acceptent ces grandes doctrines qui sortent de l'Écriture. Et justement, j'aimerais préciser la chose suivante, avant cette série, c'est que ce n'est pas à cause de ces noms ou de ces grands personnages qui nous ont précédés dans l'histoire de la foi, Augustin, Calvin, Édouard et d'autres personnages, que nous nous attachons à ces doctrines, mais c'est parce que nous sommes intimement convaincus fermement convaincu que Christ et les apôtres les ont enseignés clairement dans le Nouveau Testament. Permettez-moi encore de rajouter ceci. C'est que les cinq grandes doctrines que je viens d'énumérer il y a quelques instants ne sont pas, contrairement à ce que certains disent, un résumé ou un condensé de la foi réformée. Et je dirais de la foi réformée confessante. Parce qu'aujourd'hui, on peut se tromper quand on parle de foi réformée. Car la foi réformée est bien plus vaste que ces cinq points. Elle enseigne sur la base des Écritures d'autres vérités importantes qui touchent tous les domaines de la vie de l'Église, de la vie du chrétien, de la vie de la société dans laquelle nous sommes. La foi réformée se prononce et donne ainsi des bases à propos de la sanctification du chrétien, à propos du culte que l'on doit rendre à Dieu, à propos de la direction de l'Église, mais elle aborde aussi, toujours selon l'enseignement des Écritures, des sujets éthiques. Elle parle même d'économie, si on peut s'exprimer comme ça. Elle traite de sujets sociologiques, politiques, afin que l'homme de Dieu soit rendu apte à toute bonne œuvre. Ce n'est donc pas une théologie étriquée qui se résume à ces cinq articles de foi, comme nous l'entendons malheureusement trop souvent dire. Elle touche tous les domaines de la vie, sur un arrière-plan biblique. Alors ces quelques éléments introductifs étant posés, permettez-moi de considérer avec vous ce matin le premier des cinq grands points que nous considérons ensemble ces prochaines semaines, qui traite, ce premier point, de l'état de corruption de l'homme devant Dieu. Et le titre de la prédication de ce matin est celui-ci, « Nul ne peut venir à moi ». Et vous comprenez donc pourquoi j'ai particulièrement appuyé sur le verset 65 de Jean 6, et plus précisément sur la première partie du verset 65 de Jean 6, puisque nous verrons la deuxième partie, si le Père ne l'attire, la prochaine fois, pour le deuxième point. Donc nul ne peut venir à moi et j'aurai cinq points. Alors ne vous angoissez pas trop, les cinq points seront courts, le premier un tout petit peu plus long que les autres, et ces points sont les suivants. Tout d'abord, un diagnostic biblique sur l'état de l'homme naturel. Un diagnostic biblique sur l'état de l'homme naturel. Ensuite, l'origine de la mort spirituelle de l'homme. Puis, une corruption en étendue. Ensuite, des choix gouvernés par sa nature. Et enfin, cinquième et dernier point, quel espoir pour l'homme pécheur? Je commence donc par ce premier point, un diagnostic biblique sur l'état de l'homme naturel. Alors, chers amis, pour comprendre la gloire de l'évangile de Jésus-Christ, il est absolument impératif de saisir en premier lieu le sens de cette parole du Seigneur Jésus que nous avons lue ensemble. Je la répète, au début de Jean 6, 65, « Nul ne peut venir à moi ». Et je répète, nous verrons la suite la prochaine fois. Qu'apprenons-nous d'important par cette assertion de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous apprenons que nul, c'est-à-dire aucun être humain, ne peut, c'est-à-dire n'a la capacité, de venir à Christ par lui-même. Voici donc en peu de mots, selon le Fils de Dieu lui-même, l'état de l'homme naturel, c'est-à-dire de l'homme sans Dieu, de l'homme pécheur. Il est absolument incapable de venir à Dieu par lui-même. Chers amis, tout aussi courte que soit cette déclaration, elle doit être considérée avec la plus grande attention. Particulièrement parce qu'elle vient de Jésus-Christ lui-même. Et elle doit être ensuite considérée avec la plus grande attention si l'on veut comprendre à sa juste mesure, comme je le disais il y a quelques instants, la gloire, la puissance et l'efficacité de l'Évangile. Car l'Évangile ne serait ni glorieux ni efficace si l'homme était parfait. Si l'homme pouvait venir à Dieu par lui-même, ce qui n'est pas le cas. Alors posons-nous la question maintenant, mais pourquoi donc l'homme est-il incapable de venir à Dieu par lui-même? Qu'est-ce qui l'en empêche? Pour répondre correctement à cette question, eh bien, il est important que nous fassions, à l'instar d'un médecin qui reçoit un patient et qui veut trouver la maladie qui frappe celui-ci pour lui donner les bons médicaments, le bon traitement, eh bien, il est important que donc, comme ce médecin, que nous fassions le diagnostic spirituel de l'homme naturel, de l'homme sans Dieu. Et pour bien poser ce diagnostic, permettez-moi de commencer en vous rappelant une réalité que nous vivons tous en tant que chrétiens ici-bas. nous sommes, vous êtes, entourés par des personnes qui sont insensibles à Dieu et à son évangile. En effet, parmi nos parents, parmi nos amis, parmi nos enfants, parmi nos collègues de travail, parmi nos voisins, il en est beaucoup, il en est un grand nombre, qui vivent loin de Dieu. Mais on doit dire la chose suivante, et l'on constate la chose suivante, c'est que parmi ces gens-là, il y a différentes façons de réagir à l'égard de Dieu. Certains vont manifester publiquement leur hostilité envers lui, non seulement envers Dieu, mais aussi envers sa loi, envers son peuple. Et c'est ainsi qu'ils vont jurer, qu'ils vont se moquer des chrétiens, de Dieu, etc. Et surtout qu'ils vont désobéir ouvertement au commandement divin. Et puis il en est d'autres. Fort heureusement, ils existent. En tout cas, dans notre pays, il y en a quelques-uns. Peut-être de moins en moins, mais quand même. Plus sympathiques, compréhensifs, serviables, honnêtes. Et il arrive même très souvent que l'on ait du plaisir en leur compagnie. Ils sont généreux, ils sont bienveillants envers leurs prochains, certains même vont à l'église de temps en temps, si ce n'est même régulièrement, et ils ont même un certain plaisir en compagnie des chrétiens. Mais dans quel état spirituel se trouvent donc ces gens? Qu'ils soient ouvertement opposés ou apparemment plus conciliants à propos des choses de Dieu? Eh bien, chers amis, le diagnostic biblique à propos de ces personnes, quelle que soit leur réaction à l'égard de l'Évangile, est on ne peut plus clair. S'ils ne se sont repentis, s'ils n'ont mis leur confiance en Jésus-Christ, l'Écriture nous révèle que ces personnes sont toutes sans exception spirituellement mortes à cause de leurs péchés. Et c'est exactement ce que Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 2, au début du chapitre 2, lorsqu'il dit ceci. Et il parle à ces Éphésiens en leur rappelant qui ils étaient. Il leur dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et il nous dirait ce matin, par cette parole, nous étions, nous, de leur nombre, vivant autrefois selon les convoitises de notre chair. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, spirituellement. Et pour être plus précis encore, la Bible nous apprend que l'ensemble de l'être de ces personnes insensibles à l'Évangile, tout aussi résistantes à celui-ci ou sympathiques soient-elles ou ouvertes soient-elles à l'Évangile, l'Écriture nous apprend les conséquences de leur péché, de leur rébellion à l'égard de Dieu et de sa parole. Et c'est ainsi que la Bible nous dit que leur intelligence est atteinte. Paul écrit ceci dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 18. « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Ou encore en Romains 1, verset 21, il écrit « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Intelligence atteinte, sentiment également atteint. Pierre, dans sa deuxième épître, écrit ceci. Ils trouvent leur vice à se livrer au plaisir en plein jour. Ils se délectent dans leur tromperie. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. La Bible continue en nous disant également que leur volonté a été touchée. Je lis ce qui est écrit dans l'épître de Tite, chapitre 1, verset 16. « Pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Je continue, selon le témoignage des Écritures, qui nous apprend enfin que leur corps subit lui aussi les affres du péché, et nous aussi également. Au psaume 90, il est écrit ceci, « Tu mets devant toi nos iniquités et nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Ainsi, chers amis, bien qu'ils ne s'en rendent absolument pas compte, car ils sont au bénéfice de ce que l'on appelle en théologie la grâce commune de Dieu, qui fait lever sur tous son soleil, qui met dans le cœur de tous la joie, eh bien ce terrible état de corruption qui caractérise l'homme sans Dieu touche tout son être, ou tout leur être, et les conduit aussi, et je continue dans ce que nous dit l'Écriture, à mener ici-bas une vie pathétique. Une vie d'esclave, nous dit l'Écriture, alors que l'homme se croit libre. Et nous dirons quelques mots quant à la liberté de l'homme tout à l'heure. En Jean 8, verset 34, Jésus dit « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Non seulement une vie d'esclave, mais une incapacité à recevoir les choses de Dieu. Paul, aux Corinthiens, écrit ceci dans sa première épître. « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc à cause de cet état de péché qui touche tout son être, l'homme naturel mène une vie d'esclave du péché. Il est incapable de recevoir les choses de Dieu. Il est même dans un état d'aveuglement et de surdité spirituelle. Je cite Marc, et toujours Jésus-Christ qui parle, chapitre 4, versets 11 et 12. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. » Je vous rappelle à ce propos, pour ceux qui ont étudié ou qui étudient avec moi le livre de la Genèse, le cas de Caïn, au chapitre 4. Dieu s'adresse à lui et lui montre son péché, Dieu lui-même, et il ne comprend pas. Ce n'est pas un pasteur, un apôtre, un prophète, c'est Dieu, mais il ne comprend pas. Aveugle, incapable de recevoir les choses de Dieu. Et enfin, l'Écriture nous parle, quant à cette vie d'esclavage, d'une incapacité de plaire à Dieu à cause de leur nature dévoyée. Je cite Romains 8, versets 5 à 8. Enfin, quelques-uns d'eux. Un passage, disons, de ces versets 5 à 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ainsi donc, chers amis, la parole de Dieu est claire. Son diagnostic ne souffre aucune discussion. L'homme naturel, l'être humain sans Dieu auquel s'adresse l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est à lui qu'il s'adresse, est un être absolument incapable de venir à lui, selon ce que Jésus nous dit au début de ce verset 65 de Jean 6. Car il est spirituellement mort, avec tout ce que cela implique, non seulement comme incapacité de connaître Dieu, de vouloir s'approcher de lui, mais aussi de rébellion contre lui. Parce qu'il est non seulement incapable, parce qu'il ne le veut pas, et parce qu'il se rebelle. On pourrait dire à titre d'illustration que l'état spirituel de l'homme naturel est en quelque sorte identique à l'état physique de Lazare lorsqu'il était dans le tombeau. Il lui était impossible d'entendre, impossible de toucher, impossible de sentir, impossible de voir. Tout était ténèbres pour lui. Et l'évangéliste nous apprend même que ses pieds et ses mains étaient liés à cause des bandages qui avait été utilisé pour entourer son corps avec les aromates, parce qu'il était déjà en train de se détruire, de pourrir. Il lui était donc absolument impossible de recevoir la vie par lui-même, de revenir à la vie par lui-même, comme d'ailleurs c'est le cas pour tout être humain qui est mort. Aucun mort ne se lève en se disant « Bon, j'étais mort, ça dure un certain temps, j'aimerais bien changer d'état et je reviens à la vie. » Impossible ! Impossible même d'entendre l'ordre du Seigneur qui lui disait « Lazare, sors !» par ses capacités physiques. Voilà l'état de l'homme sans Dieu, chers frères et sœurs, un mort spirituel qui ne peut, si Dieu ne le transforme puissamment, venir à lui. Et j'en viens donc maintenant au deuxième point, l'origine de cette mort spirituelle, de la mort spirituelle de l'homme. Nous venons de poser ce diagnostic. Et il est important maintenant de savoir, mais d'où vient ce péché? Et la Bible nous révèle tout simplement que l'homme en a hérité par génération naturelle. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'au commencement de l'humanité, lorsqu'Adam pécha en se rebellant contre la loi de Dieu, loi qui lui interdisait de prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon il mourrait. Donc au commencement, lorsqu'il se rebella en péchant, il n'agit pas ce jour-là en son propre nom, uniquement. Pourquoi ? Parce qu'il représentait l'humanité entière. Où Adam et Ève étaient en quelque sorte nos représentants. Adam et Ève nous représentaient, chers amis, effectivement ici-bas, au commencement de toute chose. Et c'est ainsi que tous les commandements qu'ils reçurent de la part du Seigneur s'adressaient non seulement à eux, mais s'adressaient aussi à nous en tant que représentants. Parce que nous étions contenus en eux. Ils agissaient, si vous voulez, pour donner une image, comme des ambassadeurs, comme un président qui représente son pays ou un conseiller fédéral. Et c'est ainsi donc qu'en se rebellant contre Dieu, Adam et Ève entraînèrent dans leur chute toute la race humaine, transmettant à leurs multiples descendants cette affection mortelle du corps et de l'âme qui est le péché. Et Paul nous explique d'ailleurs ceci très clairement en Romains 5 lorsqu'il écrit « Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Ainsi donc, chers amis, par la désobéissance d'Adam, tous ses descendants, tous les êtres humains, sans aucune exception, ont hérité par génération naturelle de cette nature pécheresse, de cette révolte contre Dieu. Elle se transmet, que nous le voulions ou non, de père en fils. Et ça se vérifie tous les jours. Ça se vérifie tous les jours parce que lorsque quelqu'un pratique activement le péché dans sa vie, il démontre par ce biais la présence de cette nature pécheresse au plus profond de lui. Et on le constate déjà chez le plus petit des enfants. Comme quoi, c'est pas forcément la société, comme certains le pensent, qui le corrompt. Je prends cet exemple d'un de nos enfants qui, dès son plus jeune âge, bravait sa mère en la regardant fixement dans les yeux parce qu'il ne voulait décidément pas du biberon qu'elle lui proposait. Et on voyait déjà un état de résistance qui caractérise ni plus ni moins le péché. Chers amis, tout aussi difficile que ce soit peut-être pour vous ce matin de l'accepter, selon les Écritures, tous les êtres humains qui viennent au monde ici-bas sont sans exception éloignés de Dieu par nature, incapables de s'approcher de Dieu par eux-mêmes, à cause du péché dont ils ont hérité en Adam, péché donc qu'ils commettent, puisqu'ils en sont héritiers, puisque c'est leur nature. Le roi David, rappelez-vous, confirme cette triste réalité lorsqu'il écrit ceci. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et je vous rappelle ensuite cette affirmation de Paul que nous avons lue tout à l'heure en Romains 3. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et lorsqu'il dit ceci, il parle à ce moment-là des juifs et des non-juifs, et il met donc tout le monde, il place tout le monde sous cette réalité d'une nature pécheresse et désobéissante. Ainsi donc, de la même façon qu'il était impossible, je vous le disais tout à l'heure, à Lazare de se lever et de sortir du tombeau de lui-même, parce qu'il en était rendu incapable à cause de la mort, de la même façon, aucun d'entre vous qui êtes chrétien aujourd'hui ne peut prétendre s'être approché de Dieu par lui-même, de l'avoir cherché de son propre chef, de s'être levé un matin en se disant « Tiens, si je cherchais Dieu !» Car il était spirituellement mort, incapable d'une telle recherche à cause de sa nature déchue, pécheresse, héritée en Adam. Alors permettez-moi d'ajouter qu'étant donné ce terrible constat, si l'Évangile peut ressusciter des hommes dans un tel état de corruption et de mort spirituelle, c'est que très certainement, c'est le message le plus glorieux qui existe dans l'univers entier. Pour arriver à transformer de façon si radicale quelqu'un qui est si opposé au message de l'Évangile, à Dieu, à sa parole. Troisième point, une corruption en étendue. Maintenant que nous avons donc bibliquement établi notre diagnostic de la mort spirituelle de l'homme, considéré son origine, le péché, il convient toutefois de préciser ceci. c'est que bien que l'homme soit incapable de s'approcher de Dieu par lui-même, il n'en demeure pas moins qu'il garde de nombreuses capacités. Et c'est la raison pour laquelle, et nous l'avons rapidement abordé tout à l'heure, il arrive si souvent à l'homme sans Dieu de faire le bien autour de lui. Et c'est ainsi, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ dans les Évangiles, qu'il s'est donné de bonnes choses aux siens et à ses enfants. Il ne va pas leur donner des pierres ou des aspis. C'est ainsi que, de façon plus générale, l'être humain, l'homme sans Dieu qui nous entoure, sait vivre en société. C'est la gérer, y travailler. Nous avons découvert tout cela dans le livre de la Genèse. Je ne saurais trop vous encourager à venir à ces études bibliques. Il est même capable d'agrémenter la vie de belles choses, des productions artistiques, comme la peinture, la musique, le chant, l'écriture, la sculpture, et que sais-je encore. Rajoutons qu'il est aussi techniquement particulièrement doué, nous en bénéficions peut-être plus que toutes les générations qui nous ont précédés dans l'histoire de l'humanité. Et il lui arrive même, régulièrement, de respecter extérieurement certains commandements de Dieu, comme le mariage, le fait de ne pas porter de faux témoignages, de ne pas voler, de ne pas commettre de meurtre, etc. Avec les bénédictions, d'ailleurs, qui suivent l'obéissance à de tels commandements, même si ce n'est pas pour glorifier Dieu, mais dès lors que l'on ne vole pas, que l'on ne tue pas, eh bien, il y a forcément des grâces et des bénédictions derrière. Et si jamais, si on est dans un état de droit, on transgresse ces commandements, il y a aussi, même si c'est de moins en moins le cas, une intervention du magistrat. Mais ce n'est pas notre histoire ce matin. Alors, chers amis, si l'homme est ainsi capable de faire du bien autour de lui, c'est que sa dépravation, son état de péché, est certainement total en étendue, mais pas en intensité. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie ceci, c'est que l'homme est certes souillé par le péché dans tout son être. Mais en raison de la grâce commune par laquelle Dieu maintient un cadre de vie possible ici-bas, l'homme sans Dieu n'est pas aussi mauvais qu'il pourrait l'être. Et nous devons ainsi comprendre que même si le péché a réellement causé des ravages irrémédiables dans tous les aspects de son être, et c'est la raison pour laquelle il est possible de parler de dépravation ou de corruption totale de l'homme, c'est cette doctrine que nous étudions aujourd'hui, cela ne signifie pas que l'homme soit un être dépravé au sens absolu du terme. Nous ne sommes pas tous des Himmler, des SS, qui vont faire les pires des horreurs. Et même ces hommes-là n'étaient pas corrompus en intensité, la pire intensité du terme. Tout aussi étonnant que cela puisse vous paraître. Pour dire les choses autrement, cela signifie que l'homme est atteint par le péché dans tous les domaines de son être, sans que ce soit avec l'intensité la plus forte. Je le répète, l'homme garde en lui bien des qualités qu'il a reçues créationnellement, de par sa ressemblance avec Dieu, mais l'Écriture nous dit pourtant qu'il est incapable de changer sa nature pécheresse. Jérémie écrit ceci, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ?» De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes exercé au mal ? Pour illustrer cette vérité qui est vraiment importante, de la corruption totale de l'homme en étendue mais pas en intensité, permettez-moi de prendre cette illustration, cette image. Imaginez trois verres. Alors, je n'ai pas pris trois verres, j'aurais très bien pu les prendre pour faire une leçon de choses. Je pense que vous avez une imagination suffisamment développée pour comprendre et voir ce que je suis en train de vous présenter. Imaginez trois verres, en face de vous. Le premier de ces verres est rempli d'une eau pure et claire, et elle représente Adam tel qu'il était à l'origine, pur et sans péché. Une eau cristalline. Le deuxième verre à côté est rempli d'une huile de vidange noire. Vraiment, cette huile, après que vous ayez fait 120 000 km et que votre voiture qui est tellement solide a tenu jusque-là, une huile de vidange noire qui représente le péché dans son horreur absolue. Vous essayez de regarder au travers, impossible de voir. Et un troisième verre qui quant à lui est rempli certes d'une eau pure. C'est l'homme naturel, c'est l'homme sans Dieu, ou c'est l'homme naturel tel qu'il était au commencement, mais il s'avère que l'on verse dans ce verre quelques gouttes d'huile de vidange, quelques gouttes. Que se passe-t-il alors ? Eh bien, ce verre, ce contenu, est totalement souillé en étendue. Buvez ce verre et vous verrez ce qui se passera. Vous pourrez après aller voir Émilie prendre un rendez-vous ou aller à la morgue. C'est un des pires poisons qui existent. Totalement souillé en étendue. Mais néanmoins, vous pouvez voir au travers de ce verre. La corruption de ce verre n'est pas maximale en intensité. Voilà ce qu'il en est de la dépravation totale de l'homme, chers amis. Tout son être est touché, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Mais son état de péché n'est pas à son paroxysme. Ceci explique pourquoi, comme je le disais, comme nous le constatons, on peut vivre encore ici-bas. Pourquoi on peut croiser des gens non-croyants avec qui on peut sympathiser, avec qui on peut envisager certaines relations, avec qui on peut même partir en congé. Pourquoi beaucoup peuvent faire aujourd'hui du bien autour d'eux, aimer leurs prochains, etc. Mais nous ne devons toutefois pas oublier que même si l'homme sans Dieu est capable d'une certaine bonté, voire d'une certaine obéissance aux préceptes divins, cela ne suffit pas pour qu'il soit considéré comme juste par Dieu et accepté dans sa présence. Pourquoi ? Parce que comme nous le rappellent les apôtres Jacques et Paul, et je prends Jacques à témoin en premier, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, permettez-moi de le dire, comme l'a dit notre frère dans sa prière tout à l'heure, en omettant de faire ce qui est prescrit par la loi, ou en commettant ce qu'elle proscrit, devient coupable de tous. Si quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. Et Paul dit aux Romains, au chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » J'en viens au cinquième point. Des choix gouvernés par sa nature. Alors certains estimeront peut-être que, selon la vérité biblique qui consiste à dire, comme nous l'avons vu maintenant, que l'homme est totalement corrompu en étendue mais pas en intensité, il a donc la liberté de venir à Dieu de lui-même. En vertu du peu de bien qui reste toujours en lui, mais du bien qui est là. Mais aussi de la liberté qui est la sienne de faire des choix puisque Dieu ne le conduit pas comme un robot. Et on peut répondre à cela qu'il est certes vrai que l'homme a une certaine liberté de choix et d'action. C'est incontestable. On peut même rajouter ceci à propos de la liberté de l'homme. C'est qu'il fait toujours et seulement ce qui lui plaît. Et cette liberté de choix fait d'ailleurs de l'homme un être responsable devant Dieu, raison pour laquelle ce dernier va lui demander des comptes à la fin des temps. Jésus dit ceci en Matthieu 12, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront des comptes de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Toutefois, ce qu'il est important de comprendre, c'est que si l'homme est effectivement libre de faire ce qui lui plaît, il ne s'ensuit pas logiquement qu'il soit libre de faire ce qu'il devrait faire. Ce sont deux choses différentes. Et tout particulièrement vis-à-vis de son Créateur. Et c'est ainsi que la Bible, et nous le constatons journellement, nous montre que l'homme n'est pas libre d'aimer Dieu. L'homme n'est pas libre de se tourner par la foi vers Jésus-Christ, d'aimer la pureté, d'aimer la sainteté, d'aimer la justice. Mais pourquoi donc n'est-il pas libre de venir ainsi à Dieu, d'aimer la justice, la vérité, etc. ? Parce qu'il en est absolument incapable. Et il en est incapable car sa liberté et ses choix sont toujours gouvernés et guidés par sa nature profonde. Et afin que vous compreniez ce que je suis en train de dire, je vous propose de rapidement considérer ce qui est écrit en Matthieu 12, versets 33 à 34 et ensuite le verset 35. Qui nous montre que les pensées, les paroles et les actions de l'homme sont toujours motivées par ce qui se trouve au plus profond de son être. Je lis les versets 33 et 34. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On retrouve ici, dans ces versets, une même idée qui est exprimée de deux façons différentes. Les fruits qui poussent ou les mots qui sont prononcés révèlent la nature de l'arbre pour les fruits ou du cœur pour les mots. Et il y a donc un lien étroit entre le fruit de la bouche est la nature du cœur. Au verset 35, nous lisons encore ceci. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Remarquez qu'ici, c'est la qualité des richesses qui révèle la qualité de ce qui le contenait, du coffre d'où viennent ces richesses. Et c'est ainsi, chers amis, que l'on ne sort pas de l'or d'une poubelle, mais qu'on le sort plutôt d'un coffre-fort. Ainsi donc, le principe que nous trouvons ici énoncé à trois reprises, c'est que la nature de l'homme détermine ses envies, détermine ses pensées, détermine ses choix, détermine ses actes, détermine ses paroles. Si la nature, sa nature est bonne, eh bien il va produire de bons fruits, de bonnes paroles, un bon trésor. Il ira vers Dieu naturellement. Mais si sa nature est mauvaise, ses fruits seront pourris, ses paroles seront méchantes, et au lieu de l'or, il ne produira que des scories, même si ce n'est pas au maximum d'intensité comme nous l'avons vu. Ainsi donc, la volonté de l'homme et par conséquent ses choix ne sont pas parfaitement libres. Parce que sa nature est corrompue par le péché. Et cela signifie qu'aussi longtemps que l'homme sera gouverné par sa nature pécheresse, il ne pourra pas s'approcher du Seigneur, il en sera incapable et n'en aura même absolument aucune envie. Je termine par ce dernier point. Alors, quel espoir pour l'homme pécheur ? Nous venons de le voir, l'espoir ne se trouve pas dans sa nature propre, puisqu'elle est corrompue et qu'elle ne peut recevoir les choses de Dieu. L'espoir ne se trouve pas dans sa volonté, puisqu'elle est gouvernée par cette nature pécheresse et que, par conséquent, elle ne peut choisir de venir à Dieu. Le seul espoir de l'homme pécheur se trouve donc en Dieu. Et c'est ce que dit notre Seigneur à ses disciples. Matthieu 19, versets 25 et 26. Les disciples, entendant cela, étaient très étonnés. Ils dirent, « Mais qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » C'est Dieu qui sauve, comme le dit l'apôtre Paul aux Romains. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. L'Esprit de Dieu transforme radicalement, profondément la nature de l'homme pécheur. Et c'est ainsi que dès lors que l'Esprit agit, l'homme aspire alors à venir à Christ, à choisir la vie, à l'embrasser comme Seigneur et Sauveur, à se détourner du péché et à marcher en nouveauté de vie. Il faut une action souveraine de l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, pour que l'homme soit transformé et vienne à Christ. L'œuvre de l'Esprit est donc première dans la vie du croyant. Elle va précéder toute démarche, toute tentative humaine pour s'approcher de Dieu. Si vous me permettez de reprendre l'exemple des personnes que vous connaissez, dont nous avons parlé au tout début de ce message et qui sont opposées à l'Évangile, est-ce qu'il y a espoir pour elles ? Non, si nous regardons à leur volonté. Il n'y en a aucun. Mais il y a de l'espoir si nous regardons à l'Éternel, car c'est lui qui peut changer les cœurs les plus rebelles. Et l'apôtre Paul en est d'ailleurs un brillant exemple. Jacques, nous avons cité tout à l'heure, chapitre 1, verset 18, nous montre clairement que le salut vient de la volonté de Dieu. Lorsqu'il écrit ceci, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité. » Voilà comment l'homme peut venir à Dieu. Par une action souveraine de Dieu, par la parole de la vérité. C'est la raison pour laquelle nous devons donc, en tant que chrétiens, prêcher l'Évangile. En nous attendant à la puissance de l'Esprit de Dieu qui se sert de ce moyen pour transformer les cœurs de ceux qu'il veut sauver. La prédication de la parole de Dieu. Alors prêchons l'Évangile. Prêchons l'Évangile, annonçons-le du haut de l'estrade, personnellement, à nos enfants, à nos familles, à nos voisins, à nos collègues de travail, quand les occasions nous sont données. Et il y en a. Et si nous n'en avons pas, prions pour les avoir. Dieu ouvrira des portes. Prêchons cet évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Prions afin que notre prédication et notre témoignage soient accompagnés de cette puissance divine. Et pour vous, ce matin, qui êtes inconvertis, qui ne connaissez pas Dieu, qui êtes rebelles à Dieu, comprenez que je n'ai pas d'autre appel ce matin à vous lancer que celui de l'Écriture qui dit ceci. Venez. Venez à la source, venez à Christ et désaltérez-vous en lui. Choisissez la vie, repentez-vous, détournez-vous du mal et croyez au Fils de Dieu. Je peux vous assurer que si vous êtes loin de Dieu et que si vous suivez cette exhortation à la repentance et à la foi en Jésus-Christ, il ne vous mettra pas dehors. Parce que c'est lui-même qui attire le pécheur. Et alors vous découvrirez la réalité du salut telle qu'elle est décrite dans la parole de Dieu. Vous découvrirez la réalité du salut par grâce, telle que Paul et telle que toute l'Église fidèle l'a prêchée au travers des siècles. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, écrit l'apôtre Paul. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous te prions, notre Dieu, de bien vouloir bénir les instants qui vont suivre, par lesquels ensemble nous allons nous souvenir, en ce premier jour de la semaine, de l'œuvre de notre Sauveur à la croix, qui a porté sur lui nos péchés, notre culpabilité dont il a été si clairement question selon ta parole ce matin, qui a subi à notre place ton courroux, qui est mort, mais qui est aussi ressuscité, et par lequel nous sommes morts et ressuscités aujourd'hui, assis dans les lieux célestes, dans ta présence. Bénis ces instants éternels, ce repas, cette scène qui nous rappelle tout à la fois ces souffrances, cette délivrance, cette gloire, qui est celle de ton Fils, qui est déjà, Seigneur, en partie la nôtre éternelle, et cette espérance qui est devant nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.